Slingshot Radio.
Kofi Eli de Marius nan Kaila. Avant de passer Kofi Konan pour lui parler un peu de lui-même et dans l'épisode jeudi, hein. Faut dire que Kofi c'est un nan moun qui vraiment impressionné moi et moi reconnaître Kofi depuis Bulgarie. Il est vraiment impressionné sur façon que lié son monde qui est très positif et qui croit dans le développement personnel. Et une fois que Kofi quittait Bulgarie, il retournait Côte d'Ivoire. Faut nous dire que Kofi c'est un Ivoirien, son haïtien ivoirien, puis on me dit ça parce que il aimait Haïti, il aimait compas et il comprend créole, il tendait et là va prendre cognac là pour lui parler. Donc, m'a fait bref présentation ça sur Kofi. Je pense que Kofi lui-même va parler un peu de lui-même et de l'épisode jeudi à son épisode que nous avons essayé de chercher faire depuis longtemps et mais qui était une difficulté pour te faire. Pas oublier que nous avons un décalage horaire. Moi, je suis juste à New York et que Kofi juste Côte d'Ivoire, décalage de 4 heures de temps. Et Kofi. Merci beaucoup d'être avec nous sur Slingshot Radio pour l'épisode franc-parler et présente-toi un peu pour le public.
D'accord. Merci très cher Billy Jacotin. Ça fait vraiment plaisir et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait un bon bout de temps qu'on devrait organiser ce podcast. Voilà, on devrait parler de pas mal de choses. On a tellement de projets en suspens que nous avons... commencé depuis la Bulgarie. Alors, mon nom à l'état civil, c'est Kofi Brou Eli de Marus. Voilà. Je suis ivoirien de père et de mère. En Côte d'Ivoire, il y a 62 ethnies qui sont retrouvées, qui sont regroupées en 4 grandes ethnies. Et moi, je suis Annie du groupe Akan. Voilà. Et j'habite à Abidjan. Voilà, Abidjan qui est la capitale économique, la capitale politique est plus à 230 km d'Abidjan au centre du pays qu'on appelle Yamoussoukro, là où il y a la plus grande basilique du monde. Voilà, qui a été construite par le premier président Feu Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette même ville que j'ai fait mes classes préparatoires en sciences biologiques. Et après 5 ans, je suis sorti en tant qu'ingénieur agronome. J'ai travaillé pratiquement 3 ans dans le domaine du développement rural. Et suite à ça, j'ai eu la bourse d'études de l'AUF, l'Agence universitaire francophone. Je ne sais pas si c'est ça.
En gros, c'est ça. En fait, je dois rappeler pour nos auditeurs. Le peuple Akan a marqué l'histoire africaine. C'est un des grands, ce sont gros tribus, dès qu'a dit en bon créole, sont coquins chaînes tribus où joignent groupes ça tout partout en Afrique, Côte d'Ivoire et Ghana en particulier qui gagne plus Akan là dans lui et qui gagne Niger et Congo tout. Donc Akan people. Historiquement, dans l'histoire de l'Afrique, les marqués Afrique.
Ok.
Et donc, voilà, ce qui explique aussi la psychologie de notre ami Eli, en tant que Akan, Annie, il va aussi marquer son temps, puisque c'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un qui croit au développement personnel. Et autant que ce peuple Akan aussi croit au développement personnel du peuple Akan. Donc, voilà. Donc, Kofi, tout parlez-nous de l'Afrique, de plus précisément de Côte d'Ivoire et du point de vue politique. Comment est la Côte d'Ivoire après le président, je ne me souviens pas de son nom, le président qui a été exilé.
Le président.
Exactly.
Ouais.
Comment
Les angles locaux.
ça passe avec l'actuel président et les élections?
Alors, les élections, vu qu'il y a le corona, nous sommes suspendus aux lèvres de la décision de l'État pour savoir est-ce que on va faire vraiment il y aura vraiment les élections, sinon que l'enregistrement, le recensement électoral se fait. Moi-même, je me suis fait recenser il n'y a pas longtemps. On a besoin de connaître la population actuellement et il faut faire les cartes des électeurs après les cartes nationales d'identité pour pouvoir savoir qui a le droit de voter ou pas. Donc, actuellement, on peut dire, vu qu'il y a le corona virus, tout est à plat, OK? Nous sommes suspendus, on attend de voir ce qui va être. Mais je peux dire que du point de vue infrastructure, parce que c'est ce qui est plus visible, du point de vue infrastructure, je dis, et personne ne peut le nier, le nouveau président a fait un travail de fond, des routes, des ponts, et ce sont des projets qui ont vu le jour depuis l'avènement du second président. Monsieur Henri Conan Bédié. Okay? Après le départ du premier président, c'était des projets que le président Henri Conan Bédié avait décidé. C'est là qu'il a mis en place. Il a fait venir des élites de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire qui vivaient en Europe. Ils sont venus, il y a eu un bureau d'études. Ils ont étudié comment est-ce que la Côte d'Ivoire pouvait revenir sur le plan économique, s'afficher avec sa croissance à deux chiffres. Donc, ce sont des travaux qui étaient en suspens, des travaux qui étaient plus ou moins bloqués. Et avec lui, son arrivée, il y a pas mal de choses qui ont été décantées. Donc, de façon visible, on voit les infrastructures. Et il y a une nette amélioration. OK? Moi, je ne suis pas assez politique. Politique, je me laisse faire par la politique. Peut-être qu'un jour, je vais faire la politique. Mais ce que je sais, c'est que vu qu'il y a eu en griffe une crise et qu'il y a un groupe qui se sent lésé, OK, entre autres ceux qui étaient du côté de Laurent Gbagbo, ça fait
Voilà,
qu'il y a
Laurent
des petites
Gbagbo.
tensions.
Ah, le nom m'a
Voilà.
échappé. Ce président
Voilà.
est intéressant. Puis, il est aussi à la base de cette musique-là très populaire en Côte d'Ivoire. Et quand il était professeur à l'université.
Ouais.
Et voilà. Voilà,
Donc,
Laurent Gbagbo.
sur le plan politique, il y a ça. Et moi qui suis parti à l'étranger, je suis revenu, j'ai vu pas mal de choses changer, hein. On parle aujourd'hui d'émergence, mais c'est plutôt, je peux. D'un point de vue pas puriste économique, je peux dire que c'est un peu plus de l'immergence. Parce que y a des chiffres qui sont déclarés, mais sur le terrain, on doute fort. Hein, on doute fort. Il y a des rapports de la Banque africaine de développement qui disent le contraire de ce que nous disons, de ce qui sort dans nos différents rapports. Donc,
C'est
ça fait un
toujours
peu.
comme ça. C'est toujours
Ouais.
comme ça. Ces étrangers-là, qui ont leur superstructure, ne vont pas dire ce qui se passe en profondeur et dans un pays. Je ne sais pas, ils ont leurs propres critères, mais tant
Ouais.
que vous, les habitants du pays, vous voyez les choses et ils vont dans une bonne direction, on peut s'en ficher, quoi.
Ben ouais. Ben ouais. C'est ça. Donc, en même temps, il n'y a pas la liberté d'expression, je peux le dire. Hein. Tu es capable de te faire choper un bon matin. Excusez-moi pour le terme. On peut te venir te saisir un bon matin et te retrouver dans un sale état parce que tu as écrit quelque chose sur les réseaux sociaux qui porte atteinte à l'intégrité de l'État. Oui. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ces cas. Bon, on n'en parle pas assez, ben, on peut dire que c'est assez minime, minime, mais c'est ça.
Slingshot Slingshot Radio.
Du Front Populaire Ivoirien.
Ouais.
C'est la partie le côté adverse. Et après, on s'est rendu compte que, bon, écoute, il y a eu des malentendus. Donc, il y a des petits groupes qui se sont formés dans le camp adverse du président Laurent Gbagbo. Au camp FPI, il y a un groupe qui reconnaît le président Gbagbo comme le président du FPI. Il y a un autre groupe qui reconnaît M. Afin Guessant comme président du FPI. Donc, ça fait que c'est un peu dissocié. Mm-hmm. En même temps, côté PDCI, RDA, du côté du président Henri Konan Bédier, mm-hmm. qui a dirigé le pays au temps de Félix Houphouët-Boigny, eux aussi, il y a certains membres qui se sont ralliés au RDR, qui est du côté de le président Alassane Ouattara, qui est devenu maintenant RHDP, Rassemblement des Houphouëtistes.
Mm-hmm.
Donc, c'est un peu le bazar. Comme je l'ai dit, moi, la politique, franchement, je me tiens loin de tout ce qui est politique. Je lis des informations au passage comme ça, mais pour dire que je suis un puriste, entre autres, à faire des analyses sur la situation socio-économique, non, et socio-politique, non, je n'y vois pas grand-chose.
Voilà. En fait, pour nos auditeurs, en fait, Côte d'Ivoire, c'est un pays en Afrique, son pays en Afrique qui, comparé avec Haïti, qui développé. En fait, moi, je connais que nous-mêmes en Haïti, nous toujours un mythe autour de l'Afrique que occidentaux y ont metté dans tête nous que Afrique pas développée. Eh bien, Afrique si développée et plus développée que nous-mêmes en Haïti. Et même si que gagne des différents sous plan politique, on prend par exemple Côte d'Ivoire considéré comme un pays très développé en Afrique économiquement, et ceci avec Boigny, père fondateur là t'es joint en pile opportunité pour te construire pays ça Côte d'Ivoire ça que un pile ivoirien fier de lui. Et par la suite ou joint l'autre président qui vini. Même si il y a un petit différent entre monde qui travaille ensemble avec Boigny, tant qu'ou Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, pour nous dire que seul bagaille que yo reproché Laurent et Alassane Ouattara puis souvent, c'est yo dit que Alassane Ouattara pas ivoirien et lycée burkinabé. Mais tout ça c'est lié avec parce que tribu que l'histoire là dedans là. On brèche notre tribu, Burkina Faso, et puis on part dans le monde à vivre Côte d'Ivoire. Mais que l'on veut ou non, l'irrité y a un Ivoirien et qui a fait fierté Ivoirien. Même si il y a un monde qui gagne différent ensemble avec lui, mais économiquement, le pays a développé, route a fait, et l'école construit. Donc, il y a un bagage qui a fait en Afrique que nous-mêmes en Haïti, que nous sommes capables de prendre comme modèle. C'est vrai, historiquement, nous sommes capables d'un modèle pour le peuple noir en général. Même penser dans le 21e siècle, dans la route pour le développement, nous sommes capables de prendre un modèle nous, en Afrique. Avant nous, nous sommes Europe, nous sommes États-Unis, Canada, nous sommes Afrique. Parce que l'Afrique, c'est tes mamans, nous, tes grands-parents, nous. Donc, nous gagnons plus pour nous à l'Afrique que à pays et occidentaux. Donc, n'a quitté phase politique là pour nous parler un peu de professionnel pour nous finir premier tranche là ensemble avec Eli. Donc, nous connaissons ou dit Eli que vous êtes un agronome, vous êtes un développement, vous faites développement personnel. Et donc, mais généralement en Afrique, qui genre population et qui profession ou est que Mounio Kounia là commence à valoriser? Et est-ce que gagner marché de travail là li en forme moun joine travail automatiquement que ou fini dans l'université ou dans l'école technique?
Non, pas du tout, hein, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'insiste, pas du tout, hein. Moi, peut-être que je ne parle pas couramment le créole haïtien, parce qu'il faut que je précise, c'est pas le créole. Autre chose, c'est peut-être que je ne parle pas couramment le créole haïtien, mais je comprends en fait. Tu me poses la question de savoir, est-ce que c'est facile d'avoir un emploi? Est-ce que c'est facile que quand on finit l'école, on puisse débarquer dans le monde professionnel? Est-ce
Exactement.
que c'est facile que, franchement, quel est l'emploi qui est en vogue en Côte d'Ivoire? Il faut dire que moi, peut-être que j'ai eu une grâce particulière de Dieu, mais je dis tout simplement que c'est la main de Dieu. Quand je finissais mon diplôme d'ingénieur en 2010, hein, il y avait la crise et la crise politique là où Gbagbo se faisait chasser, là ça n'arrivait, c'était super compliqué. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai fait une spécialisation en aménagement des bas-fonds rizicoles, donc ingénieur agronome spécialisé dans la mécanisation agricole et aménagement des bas-fonds rizicoles. Et quand moi j'ai fini, j'ai eu la chance d'avoir un emploi dans la Big Four, donc dans un cabinet d'audit où j'étais un auditeur de gestion de patrimoine d'une entreprise agro-industrielle dans le palmier à huile. En fait, l'entreprise avait reçu comme cession d'une entreprise française tout le matériel agricole, y compris l'usine, y compris des tracteurs, y compris tout. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui maîtrisait, qui connaissait vraiment la machine agricole. J'ai travaillé avec eux pendant que je soutenais mon diplôme d'ingénieur. C'est comme s'il y a un emploi qui m'attendait. Ok, donc dès que j'ai fini, je suis entré dans le monde professionnel. Ça a été facile pour moi. Mais ça n'a pas été facile pour beaucoup parce que j'étais dans une classe où on était 45 et moi j'étais chef de classe. Donc moi, j'étais assez dynamique. Donc j'étais en contact avec et les aînés et ceux qui avaient fini. Ça faisait 2 ans ou 3 ans. J'étais en contact tout le temps avec les gens. Et donc j'avais l'information de ce qui se passait sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, je peux te dire que peut-être que c'est parce que j'ai fait l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, qu'on appelle l'INPHB. On peut dire que c'est la crème des crèmes en Afrique de l'Ouest. C'est une école d'excellence. Pour rentrer, il faut avoir le bac avec la mention assez bien. Donc, c'est assez sélectif. Hein, c'est pour rentrer, c'est assez très, très, très sélectif. Donc, on peut dire que c'est parce que j'ai fait cette école que ça m'a donné la possibilité de rentrer dans le monde professionnel. Moi, j'ai fait 1 an dans les audits. Après, j'ai démissionné. Je suis allé dans le monde agricole et c'est de là-bas encore que j'ai démissionné pour aller faire ma formation en management des entreprises d'économie sociale et solidaire. C'est là-bas que j'ai rencontré le frère Billy Jacotet. Donc, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, les choses n'ont pas été faciles parce que moi, j'ai fait mon mémoire sur le développement durable. La section responsabilité sociétale de l'entreprise. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile de trouver un emploi. Et ça, je vous le dis. Je suis rentré en Côte d'Ivoire et ça fait que aujourd'hui, comme on est sur la radio franc-parler et je parle franchement, et mon cher frère Billy Jacotin sait que je suis très trash, je suis très franc. Il y a un petit pincement au cœur d'être revenu, ok? Et pas plus tard que hier, Billy et moi on s'appelle régulièrement. Hier, on parlait et on se rend compte que pendant que nous étions en train de faire des études, on avait la possibilité de développer pas mal d'activités. Mais le seul truc, c'est que on n'avait pas senti, on n'avait pas flairé l'odeur du business. Donc, je rentre en Côte d'Ivoire et j'ai le pincement au cœur que pourquoi je suis revenu? Parce que j'ai fait des entretiens. Il y a des entretiens où on me disait carrément, mais monsieur, si on vous prend, vous êtes trop diplômé, vous êtes trop surqualifié. J'ai fait environ près de 9 mois de sans emploi. Et pendant ces 9 mois, je pensais que comme j'avais l'intellect, je pouvais mettre en place un business. Et j'ai créé une entreprise de vente de poulet et des œufs avec un de mes frères qui a fait les finances. Et nous, on a eu un problème de trésorerie parce qu'on achetait les œufs et le poulet cash, mais on vendait souvent à crédit. Et ça nous a plombé. Donc pendant les 9 mois, je ne suis pas resté bras ballants. C'est là que j'ai eu l'écho que le coaching prenait de l'ampleur. Le coaching en développement personnel prenait de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Donc, je fais rapidement un certificat. Donc, pour dire que pendant mon temps où j'avais pas d'emploi, j'ai profité pour pouvoir me former. Donc, après les 9 mois, j'ai eu un emploi dans le domaine du développement durable dans un grand groupe de la téléphonie mobile. Je suis parti, j'ai fait 9 mois. Je sentais pas les choses bouger parce que c'était plutôt pour faire du greenwashing. Le greenwashing, c'est une expression qu'on utilise en développement durable qui, je dis au monde entier que je fais ça, alors que dans le fond, on le fait pas. Et moi, je me plaignais parce que je défendais des valeurs. Je défendais des valeurs et je suis rentré là-bas avec pour vision d'apporter une plus-value, non seulement à l'entreprise, mais l'entreprise avait une autre vision qui était plutôt de faire la com que je fais quelque chose alors qu'au fond, on ne fait pas. Et moi, c'était à l'en... Ça, je partageais pas cette vision. Donc, suite à ça, j'ai cherché encore un emploi où je suis tombé dans un projet de la Banque mondiale. Et pendant 2 ans, j'ai été avec eux. Après, j'ai été recruté par une autre entreprise pour faire la motivation du personnel. Vu que j'avais un certificat dans le coaching en développement personnel, j'ai fait 8 mois. Et après ça, j'ai eu un nouveau poste qui est chargé de projet de développement communautaire. Donc, bref, tout ce parcours, j'ai parlé beaucoup pour qu'on comprenne le contexte. Et aujourd'hui, mon cabinet qui existe, Osez-vous développer, que j'ai mis en place depuis avril 2018, a pour mission de capaciter les élèves et les étudiants à mieux comprendre le marché de l'emploi. Parce qu'il faut dire qu'il y a des formations qui se font à l'école qui sont en inadéquation avec le monde professionnel. Le monde professionnel aussi a des besoins que les étudiants, ils sont plutôt formés pour avoir un diplôme. Ils ne sont pas formés pour le métier. Et il n'y a qu'une fine partie de... Le marché de l'emploi est universel aujourd'hui. Hein, c'est la même crise partout. Mais ce que je déplore, c'est que les responsables des ressources humaines, ils vont de moins en moins vers les directeurs des études ou encore ils vont de moins en moins dans des écoles pour partager leur expérience, pour dire, écoutez, telle formation, c'est caduque, il faut que vous revoyiez parce que voilà la vision de nous, notre entreprise, voilà où on va. Moi, je sais qu'en 2008, quand j'étais à ma première année de cycle ingénieur, il y a des grands groupes de la téléphonie qui partaient recruter des ingénieurs depuis la première année de cycle ingénieur. Donc, ça fait que l'étudiant, non seulement il est en classe, mais quand il sort les samedis, dimanches, il y a une sorte de junior enterprise. Donc, il bosse sur des projets internes de l'entreprise qui rapportaient peut-être de l'argent à l'entreprise, mais lui, en retour, il obtenait une compétence pratique et quand il finissait, il savait se vendre sur le marché. Ça fait que quand nous avons fini en 2010, c'est vrai que le marché de l'emploi était coincé, mais c'était là l'arrivée du 3G et des WiMAX. Il y a pas mal d'amis qui étaient dans la téléphonie mobile, qui étaient dans le réseau télécom, qui étaient dans l'électronique, qui ont eu des emplois. Donc moi, mon petit pincement au cœur, c'est ça. Le marché de l'emploi n'est pas accessible, seulement qu'il faut être un peu futé, il faut être très futé et il faut vraiment surveiller le marché de l'emploi comme un peu du lait sur le feu, quoi.
Ouais.
Tu veilles au grain.
Donc, en gros, c'est ça.
Voilà.
C'est pour moun yo comprenne hein, depuis Haïti, encore moun qui parle créole et encore qui comprenne français. Et ça, Eli Sodian, très simple. N'aller l'école, nous faire go tête, nous apprendre un peu le gros métier. Mais en réalité, ça que nous apprenons, yo, qu'on ne pas cadrer à la réalité que nous avons dans là. Marché
Ouais,
a
c'est ça.
besoin d'un type de moun. Et nous-mêmes, ce n'est pas moun sa nye. Et généralement, le choc, ça, les vini, c'est lors quitter pays ou aller étudier à l'étranger. À l'étranger, au formo, yeah, mais pas formo forcément pour pays ou. C'est où pour faire dépassement, ça, pour intégrer connaissances à regain, pour utiliser l'environnement qu'on y a. Exactement ça, Eli fait. Lycée ingénieur, li gagne un master en entreprise sociale. Il utilisait pour le faire premier business avec un frère sous question de l'élevage poulet. Après, il vient que besoin machin, hein, c'est que gagner pas un on y a un équilibre entre ça que on apprend et ça que l'entreprise a besoin, et bien, il crée une firme pour permettre mon yo développer tête yo. Voilà, ça c'est outils ça. Esprit entrepreneuriat ça que le gagne, hein, que le vient faire étude liant pour beaucoup. Même si étude là en soi pas une étude de cas et spécialement de réalité que la donne là. Non, en gros, nous sommes avec Elie qui présente un problème de Côte d'Ivoire, parlait de politique et parlait de profession. Yon si aperçu pour ou même cap coûter nous là, pour capable développer tête autour. Jouen yon fa en bagaille pour faire. Pas attendre que yon gros diplôme à Harvard ou pas changer monde là. Ou ka commencer à changer monde là avec ti sa qu'on gagne. Et monde ça, c'est qu'on doit dans voisinage. C'est qu'il y a une communauté que ou à vivre là, un pays que ou à vivre là. Donc, Eli, nous prenons un petit coup de pause, nous allons retourner encore pour dernière étape là, côté que nous allons parler de expérience professionnelle ou dans COVID là, actuellement là et qui ça que et qui message que vous devez faire passer pour aider Mounio en Haïti. Qui qu'on y a là pour me dire nous que Kayo a monté en pile en Haïti, Eli. En pile moun a contaminé et yo gen fièvre qui exactement symptôme maladie. Yo dit que c'est politique et que et gouvernement c'est politique la fait pour capable faire l'argent. Yo pas quoi que maladie a existé dans le pays. Donc nous pensons que dans le dernier temps ça que nous va parler de expérience COVID là. Et Côte d'Ivoire, et ou même en tant que professionnel, qui j'en ou a fait expérience, et qui j'en ou même ou a contribué pour aider communauté là, qui capable tout yon lumière pour moun en Haïti kap kote nou à travers et franc parler ça.
Slingshot Radio.
Et voilà, nous sommes à la dernière étape de l'émission franc parler pour aujourd'hui. Et côté que Eli pral parler nous de. Qui, Jean, en tant que professionnel, l'a fait expérience et maladie COVID-19 là. Pas oublier que son maladie, côté moi, avec distance sociale, mettez masque et tout ça, lavez moi de temps en temps pour pas contaminer. Et qui, Jean, ça y est en Afrique avec question vaccin que vous voulez vacciner l'Afrique qui gagne moins de monde qui contaminé. Et puis, message que vous avez gagné pour nous-mêmes en Haïti, qui pas quoi que maladie a existé et commence à faire ravage en Haïti. Eli. Parole pour.
D'accord, ok. Déjà, c'est une crise sanitaire, hein. C'est partout, partout. Tout le monde a été choqué, personne n'a été préparé à ça. Et donc, je dis quoi, c'est une crise sanitaire qui a un impact social, ok? Il y a un impact sur le plan sociologique, sur le plan, ça affecte toutes les organisations. Donc, nous, dans le monde professionnel, je peux parler de mon cas, par exemple. Moi, mon métier fait que j'ai 70% de mes activités qui se passent sur le terrain et seulement 30% où je fais de l'administration et de la planification des activités au bureau. Donc, ça fait que je suis bloqué actuellement où c'est la saison de pluie en Côte d'Ivoire. C'est la période où je dois sillonner pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain parce que nous, en agriculture, il y a une période où il pleut, mais avant la période qu'il pleut, il faut que le planteur prépare sa plantation, sa parcelle. La préparation du terrain, il faut que le planteur y soit formé. Et il y a toutes ces activités qui n'ont pas eu lieu, tout simplement parce que je suis dans une entreprise où nous vivons en fonction de la cotisation des industriels. Donc les industriels, les professionnels du caoutchouc, les industriels, eux, ils vendent leur caoutchouc généralement à Michelin, à de grands pneumatiquiers. Voilà, à des grands pneumatiquiers. Et quand tu t'imagines que les grandes usines en Chine ou en Malaisie sont fermées, quand Michelin ne passe plus de commandes de caoutchouc naturel, c'est normal que ceux qui cotisent pour notre entreprise ne cotisent plus. Et quand ils ne cotisent plus, ça veut dire que nous, nos activités sont au ralenti. Donc, c'est une crise sanitaire qui a un impact social et qui a aussi un impact économique. Donc, nous, ça nous a handicapés. Et mais là, tout doucement, on est en train de reprendre. Parce que comme c'était une nouvelle maladie et que les médias ont fait leur travail pour créer une sorte de peur, mais quand on lit les rapports de l'OMS et qu'on se rend compte aujourd'hui, parce que là, moi, je suis en train de préparer ma thèse en sociologie des organisations, donc ça fait que je suis plus dans les chiffres, plus des analyses des mouvements sociaux, on se rend compte que c'est une maladie qui ressemble un peu à une maladie que nous traitons ici en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Et c'est une maladie qui ressemble un peu au palu, OK, sans pas exagérer. Quand on regarde les symptômes, ça ressemble au palu. Après, chacun essaie de poser la question, mais pourquoi les Africains ou bien le continent africain, c'est le continent qui vit plus pendant que le monde est en arrêt? Parce que si on regarde les statistiques, on va se rendre compte que en Afrique, il y a moins plus de cas de décès. Et l'hypothèse numéro un en tant que doctorant en sociologie ou encore en essayiste, ce que je peux dire, c'est que en Afrique, les deux tiers de la population ont moins de 30 ans. Et quand on lit les personnes vulnérables au virus, on va se rendre compte que la majorité, plus de 73%, ça ce sont les chiffres de l'OMS, plus de 73% des personnes qui meurent, qui décèdent suite à la contamination du virus, ont plus de 60 ans. Donc, quand on va regarder la population en Italie, où on se rend compte que la population est plus vieillissante, dans les pays d'Europe ou dans les pays... oui, dans les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, on se rend compte que plus la population est vieillissante, plus la maladie tue plus de personnes. Donc l'Afrique a résisté une part, c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse personnelle que je dis, d'une part, il y a eu ça. Et d'autre part, il y a, tout à l'heure, j'ai souligné que la maladie ressemblait à une maladie que nous avons l'habitude de traiter ici en Côte d'Ivoire, qui est le palu.
Mais une question, Elie, mais pourquoi, d'après toi, si ça ressemble au malaria, et pourquoi ces gens-là veulent vacciner l'Afrique? Et ne pas vacciner pour éradiquer le palu.
Je t'assure que ça, c'est une grande question, mais tu sais, et je sais que nous savons nous tous que ce monde est géré par des gars qui sont tapis dans l'ombre. Je t'assure que le pays voisin à l'est de la Côte d'Ivoire, le Ghana, au Ghana, on a trouvé un guérisseur, tradit praticien, qui guérissait les gens qui avaient le VIH. Dès qu'il a commencé à faire la com, bah, le gars, on ne sait pas ce qui s'est passé, le monsieur est décédé. Ben, il est décédé avec toutes ses connaissances. Donc, j'ouvre la parenthèse et je ferme pour dire tout simplement, même la proposition que je suis en train de faire, et d'ailleurs, moi, j'ai le quitus de ma hiérarchie qui me dit, si j'ai trouvé les semences de cette plante qui permet de guérir le palu, ça peut apporter une valeur ajoutée, ça peut apporter des revenus additionnels aux planteurs. Donc, j'ai tout fait, je suis entré dans toutes les couloirs possibles, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour avoir les semences de cette plante-là. Mais je reviens plus tard. Donc, nous, en Afrique, on a l'habitude de traiter le palu, mais on se rend compte que le coronavirus, a les mêmes symptômes que le palu avec juste une infection pulmonaire. Donc, l'Afrique résiste mieux. Pourquoi? Parce que non seulement la population est de plus en plus jeune, d'où la notion de dividende démographique que la Banque mondiale a fait sortir, je crois, dans les années 2014, je crois, où normalement l'Afrique a la population la plus jeune du monde. Et si on a l'habitude de traiter le palu, Comment nous traitons le palu? D'autres ont décrié le fait que les feuilles de nîmes, la plante nîmes ne soigne pas le palu. Ok, mais moi, je sais que quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup le palu et il y avait ça qui me soignait. Ma première année cycle ingénieur, on a fait une étude sur les nîmes pour pouvoir même coloniser les abeilles de telle sorte que les abeilles allaient partir récolter le nectar des fleurs de la plante de nîmes pour produire du miel. Et ce miel soignait aussi le palu. On a fait cette étude, le GIZ. OK, bon, mais c'est resté dans les tiroirs. Quoi encore? On se rend compte que c'est Madagascar qui a tenu tête à l'OMS pour faire sortir un produit. Et c'est maintenant l'OMS se rallie pour dire, ouais, il semble que Madagascar a tenu tête et manché. Et il y a des ONG comme, je vais citer le nom de la plante maintenant, l'Artemisia. Il y a la maison de l'Artemisia qui est une ONG française qui milite, qui encourage pour la vulgarisation de cette plante-là. Donc, c'est là-bas que j'ai eu, moi, mes semences pour mes 35 techniciens. J'ai déjà fait le manuel de formation pour savoir comment planter l'Artemisia et comment récolter l'Artemisia. Là, je suis bloqué sur une étude pour savoir le compte d'exploitation, c'est-à-dire combien un planteur doit mettre dans la création d'une petite parcelle d'Artemisia et combien il gagne à la fin. Je dois faire ça pour des planteurs dans le cadre de mon travail. Donc, pour dire que il y a des études qui montrent que l'Artemisia lutte contre le palu et ça guérit le palu. Le Madagascar, la production qu'ils ont faite, la matière active qu'ils ont utilisée, c'est l'Artemisia.
Il faut dire que
OK?
cette l'artémisia, l'herbe
Oui.
artémisia, on vend ça 14 $ pour 30 millilitres.
Eh bien, donc il faut dire que l'histoire de l'Artemisia existe depuis, je sais pas, depuis la Seconde Guerre mondiale, hein. Les soldats vietnamiens utilisaient l'Artemisia. Quoi encore? Il faut dire que c'est juste que c'est pas vulgarisé. Donc je dis pas que c'est la réponse ultime contre le corona. Mais s'il y a une éventuelle solution, pourquoi ne pas se pencher là-dessus? Mais tout le monde ne va pas se pencher là-dessus. Parce que quelque part, il y a un enjeu économique. Tu t'imagines que l'Afrique, elle bouge. Pourquoi? Parce qu'on nous dit aujourd'hui que c'est obligatoire de porter les masques. Porter les masques classiques, et il y a des masques qui sont recommandés. Vous imaginez qu'il y a des couturiers, des tailleurs ivoiriens qui ont pris des morceaux de tissu pour faire le cache-nez, pour fabriquer les cache-nez, pour porter. Un cache-nez peut coûter 1 €. Or, le cache-nez a une durée de vie. On te dit, tu portes un cache-nez pour 2 heures. À la limite, tu vas exagérer pour 1 jour. Et donc, à chaque fois que quelqu'un doit être dehors, ça fait 1 € qui doit sortir de la poche. Dans le mois, ça lui fait 30 €. Est-ce que tout le monde a l'argent pour payer un cache-nez?
C'est ça, c'est
Maintenant, qui
son
fabrique?
nouveau industrie, quoi. L'argent cache-nez,
Voilà,
et
justement.
voilà,
Mais
et puis dénigrer consommation locale, on cache-nez qui était qu'à faire sur le marché local. Mais il
oui.
faut dire, Élise,
Après.
si au Côte d'Ivoire, on interdit le port du cache-nez et cousu par l'artisan ivoirien. Il faut dire, actuellement, c'est très lucratif de vendre ce type de cache-nez interdit en Afrique,
Recommandé.
recommandé en Afrique. En fait, on interdit le cache-nez artisanal en Afrique, tandis que aux États-Unis, par exemple, c'est un marché lucratif. On vend ça
Bah, voilà.
partout, et il faut voir les gens. ils portent le cachet artisanal et au lieu de prendre le cachet de 3M.
Ah, tu vois, donc quelque part, il y a un enjeu, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et à ton avis, qu'est-ce qui empêche, avec tout ce qui est laboratoire, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de faire sortir le virus? Ça fait combien de temps? Ça veut dire que pour toute l'année 2020, pendant un semestre, personne n'a bougé. L'économie est restée au ralenti. La bonne nouvelle avec ça, c'est que quand l'économie va mal, l'écologie va bien.
Oh ouais.
Ça, on est d'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'imagines que tout est resté bloqué. Mais vous êtes sûr que les laboratoires ne peuvent pas bouger? Moi, dans mon école, il est des étudiants en chimie ont mis pratiquement 3 semaines, nuit et jour, ils ne dormaient pas, hein, à produire des gels hydroalcooliques. Donc, ce sont des cadets de l'école qui ont produit des gels hydroalcooliques. Ils ont même créé des masques respiratoires artificiels. Mais tu t'imagines que ce ne sont que des étudiants qui ont reçu juste une subvention de peut-être de l'État et peut-être pas la totalité. Ils ont travaillé avec les moyens de bord pour trouver ces solutions-là. Qu'est-ce qui empêche, hein, moi je pose toujours la question, qu'est-ce qui empêche au laboratoire de s'enfermer pendant 2 semaines, 3 semaines, de faire venir des grands spécialistes pour pouvoir trouver ce qu'il faut pour ça. On dit on a trouvé le vaccin. Mais si on a trouvé le vaccin là où il y a plus de morts, pourquoi ne teste pas là-bas?
Voilà.
Et qu'on veut tester forcément en Afrique. Mais pourquoi tester en Afrique? Parce que les Africains, ben, c'est des cobayes. Et on s'en fout. Et comme je te le disais à Sofia, l'Africain n'a pas d'amis. Le seul ami de l'Africain, c'est l'Africain lui-même.
Voilà.
Le blanc n'a jamais aimé l'Africain. Mais bon, je dis ça, c'est pas à but raciste, mais.
Mais c'est réaliste, c'est
Exactement.
réaliste. On utilise l'Africain, le noir, pour faire voir, pour montrer que l'école est pluri ethnique. On utilise l'Africain ou le noir, entre guillemets, pour montrer que donc on peut l'utiliser pour donner les vaccins, pour tester un produit. Donc on nous utilise pour tout quoi.
Exactement, exactement. Donc, voilà, moi, ma petite expérience avec le coronavirus. Moi, particulièrement, peut-être que c'est parce que j'ai lu trop d'articles ou encore j'avais trop d'informations, je ne me suis pas laissé aller pour acheter la consommation à vive allure là, compulsif là, non, je ne l'ai pas fait, non. Je n'ai pas acheté des sacs de riz ou bien des choses. Je n'ai pas fait des provisions extraordinaires. Et d'ailleurs, quand je partais au supermarché et que je voyais des gens affolés, moi, pendant que je prenais le temps pour vérifier la date de péremption, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de denrées alimentaires que les magasiniers, et là aussi, les gens se sont fait des chiffres. Tu t'imagines que les gens ils font des approvisionnements. Et ils se rendent compte que dans 2 semaines, il y a tel article qui va être périmé. Donc, comme l'article va être périmé, ils nous seront obligés de jeter. Alors qu'on a stocké, il y a un coût, on a acheté, il y a un coût. Il faut qu'on fasse passer ça en promotion. Donc, tu vas te rendre compte que quand tu vas au supermarché, tous les produits, tu vois, ils sont en promotion, qui étaient, je dis n'importe quoi, à 15 dollars et un coup, ça devient 9 dollars 35. Ça dit qu'il y a quelque chose. Tu vois, et ça, c'est de la manipulation, c'est des produits de la psychologie sociale et les marketeurs l'utilisent. Donc, pendant la foulée là où on dit, bah écoute, on sera tous confinés et manger, les gens sont partis se ravitailler. Mais ils n'ont pas regardé la date de péremption. Et le magasinier aussi non plus, il n'a pas pris le temps pour informer les gens qu'il y a une date de péremption. Donc, les gens ont gardé le même prix au lieu de faire une promotion sur le produit pour vendre, mais ils ont gagné une bonne marge. Donc moi, par exemple, peut-être que je suis un peu trop incrédule. Je sais que la maladie existe. Je crois que la maladie aussi a tué des gens, mais pas à ces chiffres qu'on nous affiche à longueur de journée. Et même j'ai écrit même un webinaire sur comment gérer son stress en période de confinement. Pour expliquer aux uns aux autres qu'on n'a pas à s'affoler et que quelque part, il y a quelque chose de fondamental et qu'il faut qu'on soit plus serein.
Voilà.
Voilà.
Donc, Eli,
Est-ce que
en fait, qui ça ou t'es qu'a dit moun qui en Haïti yo, qui actuellement là, yo même yo pensé que son épidémie fièvre qui gagne, parce que pi fò moun gen fièvre, autant de après 2 jours, autant de moun nan mouri, yo pas quoi que gen maladie, parce que yo nan opposition, yo pas pour gouvernement. Donc, ou sauf fait expérience africaine là, qui message ou t'a fait passer et pour nous clôturer franc-parler pour aujourd'hui hein, à haïtien ça yo, à africain ça yo qui dans diaspora qui en Haïti, qui message ou t'a capable dire yo?
D'accord, la maladie est réelle, ok? Il faut respecter les règles, hein, les règles barrières pour ne pas être agent de propagation de cette maladie-là. Parce qu'on peut avoir notre mémé à côté qui a 70 ans, mais comme nous sommes asymptomatiques, c'est-à-dire on a le virus, mais on ne fait pas la maladie. On peut transmettre ça à notre parent qui est plus âgé et donc ça peut partir en couille. Donc le mieux, c'est de respecter les gestes barrières. Mais ce qui est important, c'est de renforcer son système immunitaire. Et moi, je peux vous dire que je peux vous inviter, chacun doit faire des recherches sur les différents aliments alcalins. J'ouvre la parenthèse rapidement pour dire que lorsqu'il y a un virus qui rentre dans notre organisme, notre corps doit se défendre automatiquement. Mais les agents qui défendent notre corps, on les appelle, c'est le système immunitaire. Et le système immunitaire, pour bien fonctionner, a besoin d'être dans un environnement alcalin. Et l'environnement alcalin, c'est notre corps qui doit être alcalin. Mais pour que notre corps soit alcalin, il faut que on consomme des aliments alcalins. Il y a toute une liste, toute une gamme d'aliments qu'on peut consommer sans toutefois courir derrière la chloroquine, sans toutefois courir derrière l'artémisia si on n'a pas accès à ça, mais juste par notre aliment, mieux se soigner pour passer à travers, parce que ce n'est pas la première crise sanitaire depuis l'humanité est humanité. On vit des crises sanitaires, mais l'être humain a réussi à passer à travers. Moi, mon outil, moi-même, quand je me réveille le matin, je mange du gingembre, que souvent je fais cuire avec des clous de girofle, mais au moins dans la journée, je vais manger une mangue ou bien des oranges ou bien de boire de l'eau citronnée. L'eau citronnée à jeun, c'est vraiment conseillé. L'eau citronnée, quand vous vous réveillez, vous buvez un peu d'eau tiède avec du citron dedans. Ça régule le pH de votre corps. Donc, le pH de votre corps va être alcalin. Donc, c'est une stratégie de renforcer votre système immunitaire. Cette maladie est réelle, mais chacun peut s'en sortir avec des gestes simples d'hygiène alimentaire et des gestes simples d'hygiène de vie. Donc, bonne chance à vous et surtout que Dieu nous bénisse.
Merci en pile Eli qui était ensemble avec nous aujourd'hui pour franc-parler et nous espérons que peut-être Eli ensemble avec nous pour une nouvelle branche de franc-parler qui est capable de porter en pile. Pas oublier, nous t'aignons avec nous Eli depuis Côte d'Ivoire qui c'est un agronome de formation, un master en entrepreneuriat et social et solidaire dans management qui a fait expérience entrepreneuriat dans Côte d'Ivoire. Il saute expliquer avec nous de fond en comble que ça qui change la ville, c'est que l'étude qu'elle fait, une fois qu'elle tourne dans le pays, l'ivine ouais réalité, hein, on l'autre gens qui fait que l'y mettait campé business pour aider le monde développer tête. Et il sort un petit message là, nous-mêmes qui en Haïti, qui pas croire que maladie a existé, il dit nous, en tant qu'agronome, expérience personnelle qu'elle fait, faut que bâti immune système, parce que immune système, on est pour bâtir lui, ou capable de faire face à la maladie hein, et respecter tous les principes. Nous sommes contents de gagner avec nous, Eli, qui est un fan compas. Et Eli, en bon parti. Dis-moi, et dans tout musicien compas ici, qui est-ce ou pire, mais Qui dernière tendance qu'on va suivre?
Mais il y a le pape, il y a le pape Dan Junior que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Mais moi, il y a toujours, je sors toujours ma carte Joker et quand je fais écouter Classe ou je fais écouter Zinglin ou je fais écouter Karimi, attends, mais ça dit, mais comment tu les connais? Et là, j'ai fait écouter Fabiola aujourd'hui à une collègue qui me dit, ah, mais elle, là, je la connais pas, c'est du zouk.
Slingshot Radio.